Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais reprendre un sujet que j'ai traité dans ma dernière chronique et qui apparemment a intéressé plusieurs personnes d'entre vous. C'était une réflexion sur l'échec du centre commercial L'Hippodrome à Toulouse. Alors, il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais d'avoir une réflexion un peu plus large sur les raisons d'un échec, on peut dire d'un projet qui avait apparemment toutes les chances d'être réussi. Alors, je vais rappeler brièvement de quoi il s'agit. Bon, il s'agit d'un centre commercial qui est positionné sur la rocade, dans le tronçon qui est le plus important de Toulouse, qui est lié à la route de Saint-Simon, avec pas très loin l'accès à Colomiers, tout le secteur spatial, et également Purpan, enfin voilà, donc c'est une partie très importante des flux de Toulouse et on a, je pense, vraiment à proximité de la rocade avec des accès dans les deux sens, un centre commercial qui est adossé à cette rocade. Donc, il a été créé en 2016, donc il n'y a pas très longtemps, et on peut dire qu'il n'a jamais décollé et que les enseignes qui étaient censées être les locomotives de ce centre commercial, Casino et Decathlon notamment, sont partis et les petits commerces également. Je ne sais pas s'ils ont fait faillite. Je n'irai pas dans mon investigation jusque-là, mais en tout cas aujourd'hui, on peut dire que il est quasiment désert et il y a seulement le magasin de hard discount Action qui travaille avec la clientèle tout à fait de proximité du quartier de Bagatelle. Alors, les explications ont été, le centre commercial n'a pas trouvé sa clientèle. Bon, bien sûr, il n'a pas trouvé sa clientèle, mais on ne va pas plus loin, ou alors des explications qui ont été données sur le fait que l'hippodrome créait le vrai hippodrome de la Sépière, créait une barrière avec les quartiers plus au nord. Bon, tout ça, évidemment, me paraît pas très sérieux. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'un projet qui avait reçu, on peut dire, sur les fonts baptismaux, la bénédiction du maire de Toulouse, qui paraît-il le trouvait très bien, et différents acteurs, un groupe important était à la tête de cela. Ça a été un chantier qui devait être exemplaire. Et j'avais parlé la semaine dernière de l'écologie qui avait été mise en avant. Alors ce n'est pas tellement mon propos aujourd'hui, mais plutôt de réfléchir aux échecs d'une manière plus générale dans notre pays qui serait dû à, on peut dire, l'organisation qui ne manque pas, puisque on passe pour tout projet, quel qu'il soit d'ailleurs de l'ordre architectural, urbanistique ou industriel, par une série de contrôles, d'experts, et on devrait ne pas avoir justement ce type d'échec, et si on les a, il serait intéressant de tirer les leçons de cela. Bon, c'est ce que j'essaie de faire ici, bien évidemment. Alors, la première des choses, ce serait de penser qu'il y a des images qui sont données au projet du fait effectivement des progrès de la numérisation qui font que on a l'impression d'y être et ce qui paraît être un progrès et qu'il est sous certaines manières de voir, mais ce progrès a un corollaire qui me paraît grave, c'est que en fait, il encourage la facilité. Je m'explique. Si vous avez des images de qui sont comme si c'était les photos de la réalité, avec le parcours, les gens qui se promènent, le soleil qui brille, et vous avez l'impression d'y être. Donc, de ce fait, l'analyse des plans, qui est quelque chose d'assez rébarbatif, assez ardu, qui demande un grand effort de compréhension, ben, ça passe en second plan. Et je peux vous en parler pour avoir été dans des jurys aujourd'hui de concours d'architectes où en fait les gens disent oh, mais écoutez les plans, on ne sait pas trop les lire, on regarde les images. Ben, évidemment, les images, c'est les images. Et les images, c'est les images numériques qui peuvent être totalement trompeuses et forcément qui le sont. Donc, cette facilité a, je pense, comme dans beaucoup de domaines de ce que nous apporte le numérique, et j'ai pu en parler sur, par exemple, ce que Google amène pour la lecture des territoires et des villes, et qu'en fait, cette facilité-là, qui supprime tout effort de décryptage des cartes, tout le monde peut le voir quand on a... Quand on a un GPS, ben, on se fie au GPS, et si le GPS se trompe, ben, on a perdu l'habitude de mémoriser les parcours et de lire les cartes. Donc, un progrès avec ses conséquences. Dans le cas du GPS, c'est peut-être pas très important, mais dans le cas de projets comme des projets d'urbanisme ou des projets d'architecture, ben, il est évident qu'il y a un véritable danger. Alors là, effectivement, celui-là est particulièrement exemplaire. Alors la première, alors on peut évidemment s'interroger sur, on peut dire, la succession d'étapes qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes, c'est-à-dire vous avez déjà des consultants au niveau de la société d'organisation, c'est-à-dire que les architectes sont soumis à des contrôles par des sachants qui sont des spécialistes dans ce cas-là, qui vont être les spécialistes de l'achalandise, des centres commerciaux. Donc on a alors il s'agit pas de dédouaner les architectes de leur responsabilité, mais je connais le système où vous avez pas tellement le mot de le choix du mot à dire et de l'expression par rapport à des contraintes, on peut dire, programmatiques. Alors, la première des choses qui me paraît la plus énorme, c'est qu'on a appelé cela l'hippodrome, sachant qu'il y a un vrai hippodrome à côté. Alors, et vous avez une façade totalement opaque en tôle foncée, avec écrit le logo énorme, l'hippodrome. Alors, il est évident que le lien entre un centre commercial et un hippodrome, c'est pas tout à fait pareil. Alors, vous avez écrit l'hippodrome et puis dessous un petit le centre commercial, attendu que il aurait fallu faire le contraire, écrire un gros centre commercial, l'hippodrome, et l'hippodrome, ça me paraît pas très bien choisi pour un centre commercial. Et donc je crois que il y avait déjà une erreur de base. La question que l'on peut se poser, mais comment personne n'a remarqué cela? Et de plus, cette façade totalement opaque sur la rocade, attendu qu'on aurait dû avoir les signes de lisibilité, et moi, pour être placé des dizaines de fois devant ce panneau de l'hippodrome, sachant qu'il y avait un hippodrome derrière, j'ai jamais pensé qu'il y avait un centre commercial. Donc là, il y a déjà une erreur énorme, et on peut se demander, mais comment personne n'a pu critiquer cela? Alors ça commence ainsi. Ensuite, donc, on ne le voit pas. on ne le voit pas depuis l'endroit où on devrait le voir. Ça veut dire la rocade quand on passe, c'est-à-dire la visibilité. Alors on peut s'étonner de la prolifération des grandes pancartes lumineuses qui indiquent les magasins qui peuvent être des nuisances visuelles. Alors là, effectivement, il y a des grands panneaux lumineux, mais effectivement, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors de l'autre côté, c'est pareil parce que on a un premier plan de fast-food et le centre commercial n'est pas visible de l'autre côté, c'est-à-dire depuis la route de Saint-Simon et par rapport aux deux ronds-points qui donnent accès. Alors, je me répète parce que je l'avais raconté, mais c'était tout à fait intéressant, c'est que d'abord, il y a un bateau très mal dessiné qui fait que si on n'a pas un 4x4, on a beaucoup de chances de s'abîmer son véhicule ou de décrocher son pot d'échappement, ce qui est déjà une première des choses. Et alors, ensuite, il y a un accès au parking qui est... on peut dire en demi sous-sol, mais en tout cas un parking qui est facilement accessible, mais il y a une double sinusoïdale avec un îlot central qu'il faut éviter parce qu'on a beaucoup de chances de le percuter. Enfin, c'est quand même assez aberrant déjà l'accès. Et une fois que l'on est dans le parking, on a du mal à s'y repérer d'une part et de savoir où est la sortie. Et il est assez mal éclairé. Et puis, j'avais noté ça, l'avantage de nos parkings en sous-sol, c'est de déboucher sur une galerie commerciale sans te couverte. Sachant que les gens, quand ils font leurs courses, eh bien, tout l'intérêt des courses, c'est justement d'être abrité. Alors là, on a des escaliers roulants, belles escaliers roulants, qui débouchent sur une place surélevée, ce qu'on appelle une dalle, mais en plein air, en plein vent, en pleine pluie ou en plein soleil. Et c'est particulièrement inconfortable. Donc on voit pas très bien, les avantages du parking couvert sont totalement perdus par cela. Donc là, déjà, on peut se demander, mais comment personne n'a pu voir cela? Alors, comme je vous disais, il y a effectivement des experts qui sont liés aux promoteurs, mais en plus, il y a les services de la ville avec des architectes de conseil, des gens dont c'est le métier, et il y a tous ces filtres que l'on devrait avoir, comme les acquéreurs également, qui ont des spécialistes, des gens qui sont payés pour lire et qui sont supposés connaître tout cela. Et donc, personne n'a dit, mais vous êtes dans l'aberration complète. Donc, il n'a pas su trouver sa clientèle, parce qu'effectivement, on est une suite d'aberrations, et à la fois visuel, on ne le voit pas, l'accès extrêmement périlleux et compliqué, et puis une dalle qui est évidemment inhospitalière et en plein vent et en pleine pluie, et parce que toute l'année on n'a pas l'image rieuse d'une esplanade plantée avec des gens qui se promènent avec leurs enfants. Ça, c'est les imageries. Donc la réalité n'est jamais celle-là. Donc La question qui est posée, c'est effectivement l'organisation et l'organisation de ces équipes pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, on a des équipes de conception. Les architectes sont entourés de consultants et d'économistes, de thermiciens, de paysagistes, que sais-je donc, et en plus de tous les contrôles qui sont autour. Ceci dit, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus éco-responsable, et puisque la responsabilité est diluée en différentes personnes. Et dans le cas présent, ben, que c'est la faute de la personne, puisque le centre commercial n'avait plus trouvé sa clientèle. Et voilà, c'est tout. Et voilà pourquoi votre fille est muette, comme dans Molière, où on a une fausse explication avec une conclusion qui est « Et voilà pourquoi le centre commercial n'a pas marché. » Et simplement, il faudrait... Je pense, dans un cas comme ça, trouver les coupables. Et les coupables, et le problème, c'est qu'il n'y a pas un coupable. Il y a toute une série d'intervenants qui vont se renvoyer la balle les uns sur les autres, et on se trouve avec un système sans responsabilité. Alors, je ne veux pas non plus incriminer les architectes qui aujourd'hui, qui c'est des jeunes architectes parisiens, et qui se retrouvent avec certainement toute une, on peut dire, une sorte de gymkhana de responsables, de contrôleurs, et ils n'arrivent plus à imposer un projet avec de la cohérence. Donc, je vais... on va pas faire une pause musicale, et puis je vais reprendre le sujet, et d'une manière, en l'étendant d'une manière un peu plus générale, sur les consultants et les experts.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier la fin.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais reprendre un sujet que j'ai traité dans ma dernière chronique et qui apparemment a intéressé plusieurs personnes d'entre vous. C'était une réflexion sur l'échec du centre commercial L'Hippodrome à Toulouse. Alors, il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais d'avoir une réflexion un peu plus large sur les raisons d'un échec, d'un projet qui avait apparemment toutes les chances d'être réussi. Alors, je vais rappeler brièvement de quoi il s'agit. Bon, il s'agit d'un centre commercial qui est positionné sur la rocade dans le tronçon qui est le plus important de Toulouse, qui est lié à la route de Saint-Simon, avec pas très loin l'accès à Colomiers, tout le secteur spatial, également Purpan, enfin voilà, donc c'est une partie très importante des flux de Toulouse, et on a, je pense, vraiment à proximité de la rocade, avec des accès dans les deux sens, un centre commercial qui est adossé à cette rocade. Donc, il a été créé en 2016, donc il n'y a pas très longtemps, et on peut dire qu'il n'a jamais décollé, et que les enseignes qui étaient censées être les locomotives de ce centre commercial, Casino et Déclaton notamment, sont partis, et les petits commerces également. Je ne sais pas s'ils ont fait faillite, je n'irai pas dans mon investigation jusque-là, mais en tout cas aujourd'hui, on peut dire que il est quasiment désert, et il y a seulement le magasin de hard discount Action qui travaille avec la clientèle tout à fait de proximité du quartier de Bagatelle. Alors, les explications ont été, le centre commercial n'a pas trouvé sa clientèle. Bon, bien sûr, il n'a pas trouvé sa clientèle, mais on ne va pas plus loin, ou alors des explications qui ont été données sur le fait que l'hippodrome créait le vrai hippodrome de la Sépierre, créait une barrière avec les quartiers plus au nord. Bon, tout ça, évidemment, me paraît pas très sérieux. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'un projet qui avait reçu, on peut dire, sur les fonds baptismaux, la bénédiction du maire de Toulouse, qui paraît-il le trouvait très bien, et différents acteurs, un groupe important était à la tête de cela. Ça a été un chantier qui devait être exemplaire, et j'avais parlé la semaine dernière de l'écologie qui avait été mise en avant. Alors, ce n'est pas tellement mon propos aujourd'hui, mais plutôt de réfléchir aux échecs d'une manière plus générale dans notre pays, qui serait dû à, on peut dire, l'organisation qui ne manque pas, puisque on passe pour tout projet, quel qu'il soit d'ailleurs de l'ordre architectural, urbanistique ou industriel, par une série de contrôles, d'experts, et on devrait ne pas avoir justement ce type d'échec, et si on les a, il serait intéressant de tirer les leçons de cela. Bon, c'est ce que j'essaie de faire ici, bien évidemment. Alors, la première des choses, ce serait de penser qu'il y a des images qui sont données au projet, du fait effectivement des progrès de la numérisation qui font que on a l'impression d'y être, et ce qui paraît être un progrès, et qu'il est sous certaines manières de voir, mais ce progrès a un corollaire qui me paraît grave, c'est que en fait, il encourage la facilité. Je m'explique. Si vous avez des images de qui sont comme si c'était les photos de la réalité, avec le parcours, les gens qui se promènent, le soleil qui brille, et vous avez l'impression d'y être. Donc, de ce fait, l'analyse des plans, qui est quelque chose d'assez rébarbatif, assez ardu, qui demande un grand effort de compréhension, ben, ça passe en second plan. Et je peux vous en parler pour avoir été dans des jurys aujourd'hui de concours d'architectes où en fait les gens disent « Oh, mais écoutez, les plans, on ne sait pas trop les lire, on regarde les images. » Ben, évidemment, les images, c'est les images. Et les images, c'est les images numériques qui peuvent être totalement trompeuses et forcément qui le sont. Donc, cette facilité a, je pense, comme dans beaucoup de domaines, de ce que nous apporte le numérique, et j'ai pu en parler sur, par exemple, ce que Google amène pour la lecture des territoires et des villes, et qu'en fait, cette facilité-là, qui supprime tout effort de décryptage des cartes, tout le monde peut le voir. Quand on a un GPS, ben, on se fie au GPS, et si le GPS se trompe, ben, on a perdu l'habitude de mémoriser les parcours et de lire les cartes. Donc, un progrès avec ses conséquences. Dans le cas du GPS, c'est peut-être pas très important, dans le cas de projets comme des projets d'urbanisme ou des projets d'architecture, ben, il est évident qu'il y a un véritable danger. Alors là, effectivement, celui-là est particulièrement exemplaire. Alors la première, alors on peut évidemment s'interroger sur, on peut dire, la succession d'étapes qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes, c'est-à-dire que vous avez déjà des consultants au niveau de la société d'organisation, c'est-à-dire que les architectes sont soumis à des contrôles par des sachants qui sont des spécialistes, dans ce cas-là, qui vont être des spécialistes de la chalandise, des centres commerciaux. Donc, alors il ne s'agit pas de dédouaner les architectes de leur responsabilité, mais je connais le système où vous n'avez pas tellement le mot, le choix du mot à dire et de l'expression par rapport à des contraintes, on peut dire, programmatiques. Alors, la première des choses qui me paraît la plus énorme, c'est qu'on a appelé cela l'hippodrome, sachant qu'il y a un vrai hippodrome à côté. Alors, et vous avez une façade totalement opaque en tôle foncée, avec écrit le logo énorme, l'hippodrome. Alors, il est évident que le lien entre un centre commercial et un hippodrome, c'est pas tout à fait pareil. Alors, vous avez écrit l'hippodrome et puis dessous un petit le centre commercial, attendu que il aurait fallu faire le contraire, écrire un gros centre commercial, l'hippodrome, et l'hippodrome, ça me paraît pas très bien choisi pour un centre commercial. Et donc je crois que il y avait déjà une erreur de base. La question que l'on peut se poser, mais comment personne n'a remarqué cela? Et de plus, cette façade totalement opaque sur la rocade, attendu qu'on aurait dû avoir les signes de lisibilité, et moi, pour être passé des dizaines de fois devant ce panneau de l'hippodrome, sachant qu'il y avait un hippodrome derrière, j'ai jamais pensé qu'il y avait un centre commercial. Donc, là, il y a déjà une erreur énorme, et on peut se demander, mais comment personne n'a pu critiquer cela? Alors ça commence ainsi. Ensuite, donc, on ne le voit pas. on ne le voit pas depuis l'endroit où on devrait le voir. Ça veut dire la rocade, quand on passe. C'est-à-dire la visibilité. Alors, on peut s'étonner de la prolifération des grandes pancartes lumineuses qui indiquent les magasins qui peuvent être des nuisances visuelles. Alors là, effectivement, il y a des grands panneaux lumineux, mais effectivement, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors de l'autre côté, c'est pareil parce que on a un premier plan de fast-food et le centre commercial n'est pas visible de l'autre côté, c'est-à-dire depuis la route de Saint-Simon et par rapport aux deux ronds-points qui donnent accès. Alors, je me répète parce que je l'avais raconté, mais c'était tout à fait intéressant, c'est que d'abord, il y a un bateau très mal dessiné qui fait que si on n'a pas un 4x4, on a beaucoup de chance de s'abîmer son véhicule ou de décrocher son pot d'échappement, ce qui est déjà une première des choses. Et alors, ensuite, il y a un accès au parking qui est... on peut dire en demi sous-sol, mais en tout cas un parking qui est facilement accessible, mais il y a une double sinusoïdale avec un îlot central qu'il faut éviter parce qu'on a beaucoup de chances de le percuter. Enfin, c'est quand même assez aberrant déjà l'accès. Et une fois que l'on est dans le parking, on a du mal à s'y repérer d'une part et de savoir où est la sortie. Et il est assez mal éclairé. Et puis, j'avais noté ça, et donc l'avantage de nos parkings en sous-sol, c'est de déboucher sur une galerie commerciale sans te couverte. Sachant que les gens, quand ils font leurs courses, eh bien, tout l'intérêt des courses, c'est justement d'être abrité. Alors là, on a des escaliers roulants, mais les escaliers roulants qui débouchent sur une place surélevée, ce qu'on appelle une dalle, mais en plein air, en plein vent, en pleine pluie ou en plein soleil. Et c'est particulièrement inconfortable. Donc on ne voit pas très bien, les avantages du parking couvert sont totalement perdus par cela. Donc là, déjà, on peut se demander, mais comment personne n'a pu voir cela? Alors, comme je vous disais, il y a effectivement des experts qui sont liés aux promoteurs, en plus, il y a les services de la ville avec des architectes de conseil, des gens dont c'est le métier, et il y a tous ces filtres que l'on devrait avoir, comme les acquéreurs également, qui ont des spécialistes, des gens qui sont payés pour lire et qui sont supposés connaître tout cela. Et donc, personne n'a dit, mais vous êtes dans l'aberration complète. Donc, il n'a pas su trouver sa clientèle, parce qu'effectivement, on est une suite d'aberrations. Et à la fois visuel, on ne le voit pas. L'accès extrêmement périlleux et compliqué. Et puis, une dalle qui est évidemment inhospitalière et en plein vent et en pleine pluie, et parce que toute l'année on n'a pas l'image rieuse d'une esplanade plantée avec des gens qui se promènent avec leurs enfants. Ça c'est les imageries. Donc la réalité n'est jamais celle-là. Donc La question qui est posée, c'est effectivement l'organisation de ces équipes pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, on a des équipes de conception. Les architectes sont entourés de consultants et d'économistes, de thermiciens, de paysagistes, que sais-je donc, et en plus de tous les contrôles qui sont autour. Ceci dit, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus aucun responsable, et puisque la responsabilité est diluée en différentes personnes. Et dans le cas présent, que c'est la faute à personne, puisque le centre commercial n'a pas pu trouver sa clientèle. Et voilà, c'est tout. Et voilà pourquoi votre fille est muette, comme dans Molière, où on a une fausse explication avec une conclusion qui est « et voilà pourquoi le centre commercial n'a pas marché ». Et simplement, et il faudrait, je pense, dans un cas comme ça, trouver les coupables. Les coupables, et le problème, c'est qu'il n'y a pas un coupable. Il y a toute une série d'intervenants qui vont se renvoyer la balle les uns sur les autres. Et on se trouve avec un système sans responsabilité. Alors, je ne veux pas non plus incriminer les architectes qui aujourd'hui, qui c'est des jeunes architectes parisiens, et qui se retrouvent avec certainement toute une, on peut dire, une sorte de gymkhana, de responsable, de contrôleur, et ils n'arrivent plus à imposer un projet avec de la cohérence. Donc, on va pas faire une pause musicale et puis je vais reprendre le sujet et d'une manière en l'étendant d'une manière un peu plus générale sur les consultants et les experts.